Nous tournons dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 1. Nombres, chapitre 13, verset 1, où il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Chapitre 17, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. » Nous continuons plus loin, nombre 13, chapitre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Nous terminons dans le chapitre 14, verset 1. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Alors, le titre du message ce matin, « En route vers Canaan ». En route vers Canaan. En tant que chrétien et en tant qu'assemblée nouvellement formée, nous devons toujours avoir les yeux sur la route menant à la terre promise et ne jamais s'en détourner. Même dans notre vie chrétienne, nous avons sorti de l'Égypte, dirigé par Dieu vers la terre promise. Mais bien souvent, le chrétien ou l'Église est encore dans le désert et tourne en rond. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à entrer dans le pays de Canaan, et bien des églises aussi. Découragement, obstacle, immaturité, désobéissance. Alors, ce que j'aimerais ce matin, c'est prendre vraiment ce texte et l'appliquer dans nos vies et surtout à l'Église. Alors, on va aller un petit peu dans l'histoire. Alors, vous savez que Canaan, c'est une terre promise. La nouvelle terre que Dieu avait montrée à Abraham. Nous l'avons vu en cette semaine, quelques-uns de nous en film, dans la vie d'Abraham. Alors, Dieu avait demandé à Abraham de quitter sa terre natale. Sa terre natale, c'est l'Irak aujourd'hui, plus au sud, pour descendre, aller sur la côte méditerranéenne, au nord de la mer Morte, le pays d'Israël aujourd'hui, et de s'installer. Selon l'alliance qu'Abraham avait faite avec Dieu, Dieu s'engageait à faire quatre choses. Faire des descendants d'Abraham une grande nation, leur donner la terre de Canaan pour toujours, nouer avec eux une relation spéciale pour être vraiment leur Dieu, et bénir à travers Abraham toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu voulait faire. Et l'histoire nous montre un périple très difficile pour Abraham et sa famille, afin d'accomplir le plan de Dieu. des obstacles, la famine, querelle avec la famille d'Abraham et son neveu Lot. Ils devront partager la terre, Abraham est parti d'un bord et Lot est parti de l'autre côté. Plus tard, Abraham a possédé une parcelle à Hébron. Il est arrivé dans la terre de Canaan, mais a possédé seulement une petite parcelle. Et à cause de la famille, ses descendants ont dû partir pour l'Égypte, où ils vont rester pendant 400 ans en esclaves. Alors, il s'ensuit la libération du peuple, après 400 ans, la libération du peuple par Moïse et le retour à Canaan. Alors, ce qu'Israël devait faire, c'est de conquérir et assujettir leur ennemi, de prendre possession du pays de Canaan afin qu'il n'y ait plus d'esclavage, afin qu'ils aient une liberté, parce qu'ils ont été esclaves pendant 400 ans. Il y avait quatre choses importantes. Premièrement, Dieu avait dit « La terre m'appartient ». On voit ça dans Lévitique, chapitre 25 et verset 23. « La terre est à Dieu, la terre m'appartient à moi, le Seigneur ». Alors, c'est pour ça que les Juifs aujourd'hui qui sont dans la terre d'Israël, qui sont dans le pays d'Israël, ne veulent plus partir. Ils ne partiront jamais parce qu'ils savent que le Seigneur leur a donné cette terre-là à perpétuité. Deuxième chose, la mise à disposition de la terre est conditionnelle. Si le peuple échoue à vivre conformément aux exigences morales fixées par Dieu, il perdra son droit et sera dispersé. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Troisième chose, si le peuple par contre se repent, il revient dans son pays natal. On voit ça dans Deutéronome chapitre 30, verset 11. Et quatrièmement, cette terre sera transformée dans le cadre d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Canaan est une terre promise. Canaan est une terre, est un endroit où Dieu amène son peuple, physiquement, spirituellement. C'est là où son peuple va avoir une relation avec lui, afin que son peuple puisse toucher le monde. C'est une terre où que les standards de Dieu, les principes de Dieu, les valeurs de Dieu sont là. C'est un processus de sanctification qui est indispensable. Canaan est l'endroit d'une marche chrétienne mature pour le chrétien d'aujourd'hui. Avec l'obéissance, avec l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Les promesses de Dieu à Abraham dans ce temps-là et à ses descendants relatives à la nation, la terre, la relation spéciale entre Dieu et son peuple, la bénédiction de toutes les nations, ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est important de suivre. Paul considère ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit leur nationalité, comme les descendants d'Abraham, héritiers des biens que Dieu a promis. Galates chapitre 3, verset 29, « Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, ce que Dieu a, l'alliance que Dieu a avec Abraham, c'était en vue de l'accomplissement en Jésus-Christ, mais qu'Abraham ne pouvait pas saisir. Quand il avait dit à Abraham, « Vois-tu les étoiles qu'il y a dans le ciel? » Tes descendants vont être aussi nombreux que cela. Nous sommes sa descendance, membres d'une famille mondiale de croyants, héritiers de tout ce qui est offert en Jésus-Christ. La terre promise, c'est la scène de la révélation progressive de Dieu, révélation en Jésus-Christ. Les quatre thèmes principaux qu'on a dit sur la terre de Canaan, si vous voulez bien me suivre, la terre est à Dieu, terre spirituelle en Jésus-Christ. Deuxième chose, il avait dit au peuple, si tu vis selon les standards de Dieu, c'est la même chose pour nous autres, une vie chrétienne selon les standards de Dieu. Troisième chose, sinon vous retournez dans le monde. Si on ne vit pas selon les standards de Dieu, on retourne dans le monde. On retourne dans le monde, mais si on se repent, on continue dans notre marche avec Dieu. Et quatrième chose, nouveau ciel, nouvelle terre. Alors, c'est la même chose. C'est un accomplissement. Nous sommes les descendants d'Abraham. Alors ici, on voit que dans Nombre chapitre 13, le peuple arrive aux abords de Canaan. Et j'aimerais qu'on parle de quatre points essentiels ce matin afin de conquérir cette terre promise-là, ce pays, cet état d'esprit de tout chrétien voulant une relation solide avec Dieu. D'une assemblée. Quatre points essentiels quand nous arrivons dans cette terre de Canaan. Premièrement, Dieu est en contrôle. Nombre chapitre 13, verset 1 jusqu'à 6. Où nous avons lu, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Dieu demande qu'il regarde le territoire. Il est en contrôle. C'est un territoire qu'il leur donne. C'est la même chose pour notre assemblée. Dieu nous donne un territoire. Spirituellement, c'est à nous. On a le droit de le réclamer. On a le droit de prier pour cela. C'est pour ça que le Seigneur met des églises, différentes églises, à différents endroits, partout dans le monde. C'est des territoires spirituels. Dieu est en contrôle. Physiquement, spirituellement, afin de répondre à l'appel de Dieu, Matthieu chapitre 28, et verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu est en contrôle même de votre Canaan, de votre vie spirituelle, de votre marche chrétienne. Dieu demande un nouveau ministère pour vous dans l'Assemblée. Il est en contrôle. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'école du dimanche, que ce soit sur le conseil d'administration, que ce soit dans votre marche chrétienne personnelle. Dieu est en contrôle. Il te donne cette abondance-là, cette situation spirituelle-là, tu es capable de le faire, ce n'est pas impossible. Dieu est en contrôle de ta vie, Dieu est en contrôle de ton ministère, Dieu est en contrôle de l'Assemblée. Premier point, Dieu est en contrôle. Deuxième point, l'exploration. Nombre chapitre 13, versets 17 à 24. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne et d'autres choses aussi. » Alors, la mission, l'exploration. Pourquoi? Découvrir la nature du pays. Évaluer les points forts et faibles de ses habitants. L'exploration, c'est la même chose pour notre assemblée. Il faut explorer. Il faut s'installer. Il a fallu louer une salle. Il a fallu regarder ce qu'il y avait aux alentours. Qui était aux alentours. Qu'il y avait peu de commerce. Qu'il y avait aux alentours qu'il y a des habitations, beaucoup de nouveaux condos. Un endroit très hostile à l'Évangile. Des gens bien fortunés, des murs élevés. Les gens ont dit, quand ils sont venus de Canaan, ils ont dit, il y a des murs élevés. Et ça me faisait penser à tous les bâtiments qui sont alentour. Il y a des murs, quand on a envoyé beaucoup d'invitations, on a eu peu de réponses. Et nous devons explorer notre territoire, comme Dieu demande, comme Dieu a demandé. Et dans notre marche chrétienne, c'est la même chose. Le terrain est donné, vous êtes dans votre Canaan, mais il faut explorer. Il faut explorer quoi? Il faut explorer l'endroit où vous êtes, l'endroit où votre église, l'endroit de les circonstances alentour de votre ministère. Quel genre de milieu vivons-nous? Est-ce que nous vivons dans une famille chrétienne, dans un milieu chrétien, nos voisins, les bonnes influences? On sait que dans la province de Québec, c'est un endroit qui est très hostile à l'Évangile également. Il y a des liens spirituels dans la province de Québec. Il faut explorer aussi nos forces et nos faiblesses dans notre vie chrétienne. Il faut se remettre en question. De quoi avons-nous peur? C'est quoi nos craintes? C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Le pays est donné, mais il faut explorer, que ce soit l'Assemblée doit explorer. Mais dans notre marche chrétienne, nous devons aussi faire une remise en question. Beaucoup de chrétiens se réveillent à un moment donné et qui ont dit, ils se sont aperçus qu'il y avait fait naufrage par rapport à la foi, comme il est écrit dans la parole, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Mais est-ce qu'ils ont exploré leur milieu? Premièrement, est-ce leur milieu physique, à quel endroit qu'ils vivent? Est-ce que ça a été néfaste pour leur vie chrétienne? Puis par rapport à eux-mêmes, est-ce qu'ils ont fait une exploration de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, leur communion avec Christ? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, Dieu est en contrôle, mais nous devons explorer. Troisième chose que j'aimerais parler, le désert. Parce que vous savez que les Israélites, ils ont exploré, ils ont eu beaucoup de craintes parce qu'il y avait des géants. Ils ont dit, il y a des géants dans ce pays-là. Ils ont murmuré et Dieu les a envoyés dans le désert pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. Et ils ont viré en rond pendant 40 ans dans un désert. Alors, l'Assemblée peut passer par un désert également. Ça peut être un test de foi. Souvent, ça peut être à cause d'une fermeture qu'il y a eu, comme nous autres, on a connu une fermeture d'église. Alors, ce fut un temps de désert, changement de pasteur, des gens qui quittent. Ça peut être un désert, ce fut un désert pour l'Assemblée. Mais il faut être fixé sur une promesse de Dieu. Alors, oui, l'Assemblée, comme le peuple d'Israël peut passer par un désert. Et concernant notre personne, souvent nos yeux sont sur une terre promise, mais nos pensées sont en Égypte. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ils ont même voulu lapider Moïse. Les murmures, découragés, voulaient revenir en Égypte, comme bien des chrétiens. Et Dieu les a laissés dans le désert pendant 40 ans. Beaucoup de chrétiens vivent dans le désert. Et il explique dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, « L'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. » Le peuple a été mis à l'épreuve afin de se connaître lui-même et d'en venir à la conclusion qu'il ne pourra pas entrer dans la terre promise, qu'il va pouvoir entrer dans la terre promise, mais que par la grâce de Dieu. Le but du désert, c'est d'une humiliation, une épreuve. Puis il est écrit dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 16, pour te faire du bien à la fin. Dieu avait pourvu à tout dans le désert. Le peuple était rassemblé autour de l'arche de l'Alliance. Il y avait une nuée pour le conduire, il y avait des trompettes pour les avertir, et il y avait la manne, ils buvaient d'un rocher spirituel pour l'eau. Mais pourquoi tant d'années dans le désert? À cause de leur incrédulité. Et souvent, on doit passer par un désert dans nos vies, pas pour rester, non pour y rester, mais pour nous fortifier. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont des spécialistes du désert, des grands voyageurs, ils connaissent tous les déserts, des chrétiens qui sont tout le temps dans le désert, spirituellement. Première chose que nous ressentons dans un désert, c'est la soif. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que l'eau représente dans la Bible? L'eau de vie, le Seigneur Jésus. Le désert ne peut pas apaiser une soif spirituelle. Mais dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. » Alors, dans le désert, il y a un processus de sanctification. Dieu travaille le caractère, enlève les habitudes du monde, les mauvaises choses de ce peuple-là qui avait des mauvaises choses qu'il avait apprises dans le monde moderne de l'Égypte. Le désert n'est pas une destination, mais c'est un passage obligatoire afin d'être reprogrammé et transformé. On ne reste pas dans un désert. Dans un désert, c'est j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif. On a besoin de la direction de Dieu afin qu'on puisse faire comme le peuple. Après ça, ils ont traversé le Jourdain pour aller dans le pays de Canaan. Alors, quand ils sont devenus matures, ils ont traversé le Jourdain. Quand ils sont venus matures spirituellement, Dieu ne peut rien faire avec des bébés. Quand on arrive au Seigneur, Dieu fait tigidi avec nous, il s'amuse avec nous, mais nous devons, après quelques années, être plus matures. Ce qui n'était pas le cas du peuple en Israël. Ce qui n'était pas le cas, souvent, de plusieurs chrétiens. Ce qui n'était peut-être pas le cas de notre assemblée. On doit passer par un désert afin d'entrer par le Jourdain dans une nouvelle dimension, dans un nouveau territoire, dans un nouveau pays, afin d'enlever les convoitises, les tentations, les œuvres de la chair. Mais souvent, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à se sortir de ce désert-là. Troisième chose, le désert. Ne vous en faites pas. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver à une assemblée. Ça nous fortifie, ça nous reprogramme. Ça nous rend plus matures. Oui, c'est sûr que nous perdons des choses dans le désert. Des fois, nous devons recommencer à zéro. Mais souvent, c'est bénéfique. Quatrième point, les obstacles. Il y a toujours des obstacles dans le désert. Tempête de sable, la soif constante, une terre aride et dure, solitude, des fausses visions, tempête de sable, c'est les attaques de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que vous preniez le territoire. Une soif constante, c'est la même chose. On manque de l'onction du Saint-Esprit. On manque de la direction du Saint-Esprit. Dieu peut permettre la soif afin que de nous amener à boire tous les jours de notre vie. C'est une terre aride et dure, le désert. Une marche qui n'est pas facile. C'est un endroit où il y a de la solitude. C'est la même chose quand nous sommes dans un désert spirituel, nous pensons seulement à nos petits caprices, nos petites personnes. Alors que dans le monde chrétien, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est le don de soi et le don de notre argent. très différent. Dans le désert, il y a des fausses visions. On voit des choses, on voit des qui n'existent pas en réalité. C'est la même chose. C'est quand on n'est pas avec Dieu, c'est des projets que l'on veut faire, c'est des projets que l'on voit, mais ce sont des faux projets parce que ce ne sont pas des projets de Dieu. Il y a des obstacles aussi dans nos vies, dans les assemblées. Vous savez, il y a eu 12 espions qui sont allés voir la terre de Canaan. 10 ont déclaré qu'il n'y avait rien à faire. 10 sur 12, dans bien des cas, c'est la majorité, c'est certain. Alors, c'est que ce soit dans une élection, que ce soit dans... c'est gagnant. Mais dans le monde chrétien, ce n'est pas gagnant. La majorité ne veut absolument pas rien dire. 2 ont vu une promesse. Dieu a vu 2 sur 12. Seulement Josué et Caleb ont vu la terre promise. Alors, il ne faut pas se fier à la majorité dans une assemblée. Dans une assemblée, l'influence de 2 ou 3 hommes de foi peut être une bénédiction. Comme l'influence de 2 ou 3 personnes peut être très néfaste pour une assemblée. Alors, il ne faut pas se fier à une majorité ou une minorité. Il y a d'autres obstacles aussi, le passé. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Nous mangeons du pain et de la viande et maintenant nous allons mourir. Tant bien, c'est ça qu'ils ont dit. Ils se rappelaient qui étaient dans l'ancien temps, dans le bon vieux temps. Pourtant, Dieu avait fait des miracles, Dieu avait pourvu, Dieu était là. C'était meilleur en Égypte. C'était meilleur avant dans notre ancienne assemblée. Il y avait plus de gens. Le passé, c'est passé. Le passé, c'est de l'histoire. Le futur, c'est de l'espoir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et souvent, l'autre obstacle également, ça peut être nous. Nous sommes souvent un obstacle à notre marche chrétienne. Selon notre attitude. Mais notre attitude va déterminer notre altitude. Je pensais justement les nouveaux condos qui vont construire, c'est le projet, c'est les condos altitude. Je pensais à ma prédication. Plus qu'on veut mettre un château sur une montagne le plus haut possible, plus ça va être dur d'y accéder. Mais notre attitude va déterminer notre altitude spirituellement. Alors oui, l'Église a eu beaucoup d'obstacles. Nous avons eu des obstacles. Nous avons eu des embûches. Mais je crois sincèrement que nous traversons le Jourdain. L'Israël est arrivé à la frontière de Canaan. L'Éternel lui a promis un pays où coule le lait et le miel. Deutéronome, c'est écrit, « Regarde, dit Moïse, l'Éternel ton Dieu a mis devant toi le pays. » Monte, prends possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi douter de la promesse divine? Pourquoi Dieu donnerait un mauvais pays? Pourquoi Dieu donnerait une mauvaise terre? Pourquoi Dieu nous donnerait un mauvais environnement? De toute façon, Dieu a la puissance de combattre n'importe quel ennemi. Et le rapport des espions dit, « Vraiment, le pays est ruisselant de lait et de miel. Ils en montrent le fruit magnifique. » Seulement, ajoute-t-il, le peuple qui habite dans le pays est fort. Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. L'incrédulité. On manque de foi dans la promesse de Dieu. On manque de foi pour la conquête. Et qu'est-ce que l'incrédulité fait? À la révolte. Il y a une révolte du peuple. Lapidation, ils voulaient lapider. Bien que l'Éternel leur avait dit qu'ils pouvaient rentrer dans ce pays-là. Hébreux chapitre 3, verset 19, met vraiment le doigt sur la plaie. Nous voyons qu'il ne peut rentrer dans le repos à cause de l'incrédulité. Craignons donc que quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Si la foi n'est pas en activité, si la confiance en Dieu n'est pas réelle, on va choisir un autre chemin. Le peuple a méprisé l'Éternel, il a méprisé le pays. Au moment crucial, ils n'ont pas compté sur Dieu. Est-ce qu'on est incrédule? Est-ce que l'on croit? On a un bon environnement? On a un beau local? Je remercie le Seigneur ce matin de ce local qui n'est pas cher. On a une équipe de louanges, on a de la musique. Mais le peuple a dit, il y a des murs tout autour de Jéricho. De grands murs. Il y a des murs tout autour de l'Église. Savez-vous qu'est-ce que ça leur a pris pour que les murs tombent? Trompette. Ça a pris une trompette pour enlever les murs de Jéricho. Franchement. Jéricho, c'est le monde. Jéricho représente le monde. Ça a pris seulement 7 trompettes. Le Seigneur avait promis la victoire à Israël. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. La Bible dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Marc, chapitre 9, verset 23. Si les villes sont fortifiées jusqu'au ciel, c'est pas grave, Dieu siège sur le trône des cieux. Si les adversaires du croyant sont les dominateurs des ténèbres de ce siècle, le Seigneur de tous et de tout est sa force. Quels que soient les ennemis, on doit s'appuyer sur Dieu. La main de Dieu n'est pas petite. Il exauce les prières en faveur de son peuple, même aujourd'hui, en réponse, premièrement, à la foi. Les murs de Jéricho se sont écroulés par la foi. Il faut mettre notre confiance en Dieu. La Bible dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il faut prendre la victoire par la foi. Laissons les résultats à Dieu. Si notre esprit est préoccupé par les résultats, non. C'est l'œuvre de Dieu. Il faut la prendre par la foi. C'est une œuvre de foi, une assemblée. C'est de croire en quelque chose, en vue d'une victoire finale. Premièrement, c'est une question de foi dans l'Assemblée, de croire en quelque chose. Combien d'églises ont parti avec 10 personnes et aujourd'hui, ils sont des milliers? C'est bon. Deuxième chose, les Israélites eurent à apprendre la patience dans l'œuvre de la foi. Pourquoi je dis ça? Ils ont marché 7 jours autour de Jéricho. 6 fois, ils ont fait le tour de Jéricho. Une fois, pendant 6 jours, ils faisaient une fois par jour. Et la 7e journée, ils ont fait le tour 7 fois. Pourquoi pas une journée puis faire le tour 7 fois? Pourquoi 6 autres journées, une fois par jour? Qu'est-ce qu'ils ont fait le reste de la journée? Quelle perte de temps! Et souvent, on dit, quelle perte de temps un dimanche où il n'y a pas personne. Il faut être patient. Ils ont dû être patients. Ils ont dû se dire, pourquoi? Mais s'ils n'avaient pas marché 6 jours, les murs de Jéricho ne seraient pas tombés. Alors, le Seigneur fait souvent passer nos vies, notre marche chrétienne, notre marche d'assemblée par la discipline de l'attente, comme ils ont fait avec Israël, afin de produire, de manifester en eux les qualités d'un bon soldat. L'épreuve de votre foi produit la patience dans Jacques. Alors, ça a le prix de la foi, ça a le prix de la patience, ce que des fois je pense qu'il nous manque, et ça a pris aussi une troisième chose, du zèle. Pourquoi j'ai dit ça? Josué se leva de bon matin. Et le 7e jour, ils se levèrent dès le matin à l'aube du jour. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dans l'après-midi? Ils ont fallu qu'ils se lèvent très tôt le matin. Une foi sincère n'est jamais oisive. Plus grande est notre foi et plus grand va être notre œuvre en Jésus-Christ, nos œuvres qu'on va faire. Il faut faire attention. Il ne faut pas que notre zèle dépasse notre foi. On met toute notre énergie, mais on ne pense pas à Dieu. Et on le fait par notre propre force. La foi, premièrement, l'énergie, ensuite. Il faut que, premièrement, nous soyons en communion avec lui, avoir la direction de ce que Dieu veut, et après ça, on prend notre zèle et on fait le ministère que le Seigneur nous demande. Et non pas l'inverse. Alors, la foi, la patience et le zèle. Le résultat, c'est la victoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné de la trompette. Ils ont seulement sonné de la trompette. Ils ont louangé, ils ont poussé des cris après ça. Josué avait dit au peuple, ne parlez pas. Lorsque vous allez faire le tour, aucun son, aucun murmure. Ils sont allés par la foi. La dernière journée, la 7e journée, ce qu'ils ont fait, seulement de la trompette, des cris, ayant vu Dieu agir. Chronique nous dit, « Croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Nous devons seulement faire comme Israël. Faire confiance à Dieu en toutes choses. Christ est avec nous. L'arche de l'Alliance a toujours été avec chaque marche des Juifs, des Israélites à l'époque. Il y avait tout le temps l'arche de l'Alliance que je vais vous parler à un moment donné. C'est très important, l'Arche de l'Alliance qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont fait le tour de Jéricho, il y avait l'Arche de l'Alliance avec eux. Ils ne se promenaient jamais, et dans le désert, lorsqu'ils marchaient, ils avaient tout le temps l'Arche de l'Alliance. La simple confiance dans le Seigneur. Et ça va nous conduire, la foi, la patience, le zèle, ça va nous conduire dans une obéissance et ça va nous conduire dans un triomphe. Peu importe si le chemin est difficile, si le chemin est facile, faut croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Peu importe la hauteur des murs, dans l'environnement ici, peu importe l'hostilité des gens, peu importe l'arrogance, Jéricho était une ville arrogante. Pourquoi? Quand ils sont arrivés à la porte de Jéricho, pensez-vous que Jéricho, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir Josué et dire « Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? » Pourquoi tu viens ici? Ils savaient que l'armée s'en venait. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il y avait tout le temps des espions. Ils envoyaient tout le temps des espions aux alentours pour voir s'il y avait des gens qui s'amenaient à nous faire la guerre. Alors, quand Josué est arrivé avec les hommes, Jéricho avait une fortification, avait des murs, il n'y a personne qui est sorti. Ils ont probablement dit, « Bof, qu'est-ce que c'est? » Ils ne pourront jamais rentrer. C'était une ville qui était arrogante. Et souvent, notre société est arrogante aussi vis-à-vis des choses de Dieu. Alors, c'est la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, l'environnement, des fois, ça nous paraît tellement dur, qu'il y a tellement des murs, qu'il y a tellement des circonstances, qu'il y a tellement des obstacles. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait murmurer. Nous sommes incrédules, nous manquons de foi, nous faisons comme le peuple d'Israël. Nous voulons retourner à ce que nous avions avant. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je sais qu'il y a des anges qui ont dit « Amen », ils sont en arrière. Là. Puis... N'oublions pas une chose. Jéricho a tombé. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué a dit au peuple que personne ne rebâtisse cette cité. Sinon, il va y avoir une malédiction qui va être sur cette personne-là est sur sa famille. Jéricho était destiné à la destruction. Quand ils sont rentrés dans Jéricho, malheureusement, ils ont tout voué à l'interdit. Alors, faisons attention, frères et sœurs, spirituellement, on ne sait pas ici, mais une chose est certaine. La Bible dit que toute chose va passer. Ma parole de Dieu va rester, mais toute chose va passer. Le monde que nous vivons présentement va être détruit. Et spirituellement, si nous prenons Jéricho spirituellement, ça peut être la même chose ici. C'est spirituel. Dieu peut, je ne sais pas ce que Dieu peut faire, mais il peut tout détruire spirituellement. Afin qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse s'installer. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu va enlever les murs. C'est impossible des Israélites de comprendre ces choses-là. Ils n'ont pas fait grand-chose. Les murs ont tombé. Des louanges, des trompettes, du tam-tam, une guitare, de la prière. Les murs ont tombé. Sans, sans effort. Ils n'ont même, pas sorti une épée. Que ça puisse nous parler ici en tant qu'assemblée, de ne pas voir vraiment tout ce que l'on fait, que ce soit d'une impossibilité face aux circonstances qu'il y a. Dieu est Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu nous demande d'explorer. Dieu nous a peut-être fait passer par un certain désert. Présentement, nous traversons le Jourdain. Et les murs, naturellement, on veut que les murs tombent. Et probablement qu'ils vont tomber par la grâce de Dieu. Mais agissons comme Israël a fait, avec foi, avec patience et avec zèle, et non pas dans l'incrédulité et dans le murmure. Amen.